Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Bernard-Henri Lévy
avec Nathalie Renoux sur RTL.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu, évidemment bousculé par l'actualité en Russie. À mes côtés aujourd'hui, un homme décrié de combat, à la fois penseur et acteur, toujours là où l'histoire est à un tournant. Bonjour Bernard-Henri Lévy.
Bonjour.
Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Vous sortez un livre sur Israël après le 7 octobre. Ça s'appelle « Solitude d'Israël ». Vous avez aussi beaucoup traité de la guerre en Ukraine, deux conflits toujours en cours, un attentat en Russie hier soir. Est-ce que le monde tel qu'il est a de quoi nous rendre, vous rendre pessimiste ?
Non, moi je suis optimiste. Je suis optimiste parce que je pense que les démocraties, si elles se ressaisissent, sont plus fortes que ça. Elles sont capables de vaincre le terrorisme, elles sont capables de vaincre cette grande alliance d'États barbares qui s'unissent contre l'Occident et les valeurs occidentales et les valeurs démocratiques. C'est ça une des thèses de Solitude d'Israël, c'est que si on veut, on peut. Et que les dictateurs, les terroristes, les Daesh, les Poutine ne sont forts que de nos faiblesses.
Merci pour cette première réponse qui nous encourage un peu dans une actualité sombre et très riche. On commence ce journal inattendu par les informations que je vous invite d'ailleurs à commenter avec moi. Et dans l'actualité de ce samedi, deux grands titres. Et d'abord, cette attaque terroriste dans une salle de concert en périphérie de Moscou hier soir. Le bilan s'est alourdi. 115 morts au moins, 11 personnes ont été arrêtées, dont 4 seraient les assaillants selon les autorités russes et qui affirment qu'ils avaient des contacts du côté ukrainien. L'attentat a pourtant été revendiqué par l'État islamique. Nous consacrerons une large part de ce journal à cette attaque. L'annonce choc au Royaume-Uni. Kate Middleton a pris la parole dans une vidéo pour dire qu'elle était atteinte d'un cancer et qu'elle avait entamé une chimiothérapie. Sidération dans la population, nous serons en direct de Londres. Et puis du football ce soir avec le match de préparation France-Allemagne. Notre spécialiste nous dira qu'une telle affiche à quelques mois de l'Euro n'a en réalité rien de tout à fait amical. Et puis la météo, c'est avec vous Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Petit coup de fraise ce week-end, Valérie.
Oui, nous avions juste une parenthèse de douceur. On revient au normal cet après-midi avec un ciel assez agité sur la moitié nord, des grains orageux qui vont alterner quand même avec de belles éclaircies. Un soleil qui sera toujours plus généreux dans la moitié sud avec des vents forts. D'ailleurs, Mistral et Tramontane vont souffler assez fortement sur tout le pourtour méditerranéen. Plus que 11 degrés à Paris et Strasbourg cet après-midi, 13 à Rennes, 15 à Bordeaux, 16 à Grenoble, 20 degrés pour Marseille.
Merci Valérie.
Le journal inattendu sur RTL.
Des rafales de mitraillettes et des cris. C'était hier soir à Moscou, au Crocus City Hall, une salle de spectacle où le public était en train de s'installer pour assister à un concert de rock. Très vite, le bâtiment a pris feu. Le bilan de cette attaque terroriste est de 115 morts au moins, mais il pourrait s'alourdir selon les autorités russes. Vincent Serrano, on va reprendre avec vous le cours chronologique des événements avec toutes les informations dont on dispose ce midi.
Un peu avant 20h hier soir, ils sont plusieurs centaines à prendre place dans la salle, presque autant à presser le pas dans les coursives et dans le hall, là où les premiers tirs éclatent. La scène est filmée par des spectateurs qui ne sont pas encore assis. On y voit dans ce hall au moins 4 hommes en tenue de camouflage, armes automatiques à la main, s'avancer vers les portiques de sécurité, tirer sur les vitres. Elles explosent, ils entrent. Les assaillants tirent ensuite à vue dans le hall, rechargent leurs armes. En face d'eux, une dame âgée court en lâchant son sac à main. D'autres tentent de se cacher derrière des piliers, des fauteuils. Les hommes armés entrent ensuite dans la salle où les spectateurs hurlent, les tirs reprennent. Igor, l'un des rescapés, raconte à la télévision russe.
J'étais assis à l'étage au niveau des balcons. Nous avons entendu des tirs. Au début, on ne comprenait pas ce qui se passait. Mais j'ai vu les terroristes entrer et quand ils ont commencé à tirer sur tout le monde. À la fin, ils ont lancé un cocktail Molotov et tout a pris feu. On nous a conduits vers la sortie, mais elle était fermée. Alors tout le monde s'est mis à courir partout dans la salle pour trouver une autre sortie. On est allé finalement vers le sous-sol où on a attendu les secours avant de pouvoir sortir.
Ce qui suit n'est qu'une succession de scènes de panique. Les spectateurs rampent entre les sièges pour éviter les balles alors que les tireurs mitraillent la foule méthodiquement, sans interruption, alors que les flammes commencent à se propager le long des murs. Eux continuent de tirer. Toujours sur une vidéo filmée par un spectateur, on voit ensuite dans le noir l'électricité d'électricité a été coupée. Des dizaines de spectateurs qui ont pu s'échapper vers le sous-sol. Ils doivent tambouriner sur les issues de secours pour les ouvrir avec difficulté. Les tirs cessent. Fin d'une attaque qui aura duré de longues minutes. Les vidéos qui suivent laissent apparaître dans le hall des corps ensanglantés que des personnes doivent enjamber pour se ruer en file indienne vers la sortie. D'autres ont trouvé refuge sur le toit. Les secours arrivent, tentent de maîtriser l'incendie, mais une partie de l'édifice s'effondre. 20 corps ont pour l'instant été trouvés dans les décombres et les autorités russes préviennent. Les autorités, les opérations de secours peuvent durer encore plusieurs jours.
Merci Vincent Serrano. Nicolas Burnand, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à RTL et vous rentrez tout juste de Moscou où vous avez suivi l'élection présidentielle. Comment vit la capitale russe au lendemain de cette attaque ?
Eh bien, Moscou est sous le choc, vit au ralenti. Des barrages de police ont été installés au carrefour, certains véhicules inspectés. La place rouge est bouclée, tous les événements publics sont annulés, les musées, théâtres fermés. Sur les panneaux publicitaires, des images sont apparues, dont celle d'une bougie pour rendre hommage aux victimes de cet attentat. Des centaines de moscovites se sont aussi rendus spontanément devant les hôpitaux pour donner leur sang. Le président russe Vladimir Poutine ne s'est pas encore exprimé publiquement, mais il a tenu des réunions avec les membres de son conseil de sécurité. On ignore quand il le fera.
Alors, 11 personnes ont été arrêtées, dont les 4 assaillants, selon les autorités russes. C'est allé très vite.
Absolument. Tôt ce matin, les tireurs présumés de cette attaque ont été arrêtés par la police dans la région de Bryansk, selon les autorités. Ils se dirigeaient à bord d'une voiture de couleur blanche vers la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Ces hommes seraient originaires du Tadjikistan, une ancienne république de l'Union soviétique à majorité musulmane, qui compte des mouvements armés islamistes. Des passeports ainsi qu'un pistolet, un chargeur de fusil d'assaut auraient été retrouvés dans leur véhicule. Leurs photos d'identité ont été diffusées, ce qui laisse penser qu'ils étaient connus et peut-être même suivis par les services de sécurité.
Alors, l'État islamique a revendiqué cette attaque.
Oui, très vite, sur l'un de ses comptes Telegram, le groupe djihadiste a affirmé être à l'origine de cet attentat en expliquant, je cite, que des combattants ont attaqué un grand rassemblement de chrétiens dans les environs de la capitale russe avant de se retirer dans leur base en toute sécurité. Mais ce midi, et c'est important de le noter pour comprendre peut-être la suite des événements, le FSB fait déjà le lien entre ces hommes et l'Ukraine en guerre. Selon le service fédéral de sécurité russe, ils avaient des contacts dans ce pays et comptaient y fuir. Aucune preuve n'a été apportée. Aucun autre service de renseignement ne confirme pour l'heure cette information. Kiev, de son côté, dément toute implication dans cet attentat.
Je reviens vers vous, Nicolas, mais d'abord une réaction. Le fait que les autorités russes se tournent vers l'Ukraine pour expliquer cet attentat alors que l'État islamique l'a revendiqué, ça ne vous étonne pas, j'imagine ?
D'abord, j'écoutais votre reporter, j'écoutais le récit, l'abomination d'abord, l'horreur, la compassion absolue pour ces familles, ça nous rappelle le Bataclan, ça nous rappelle le World Trade Center, ces gens qui rampent entre les sièges, enfin, la première pensée avant d'entrer dans des... c'est là où on voit d'ailleurs l'abjection des pouvoirs totalitaires. Le premier réflexe de Poutine, c'est de commencer à faire son boulot de flic du FSB, de pointer la première chose qu'il devrait dire, le premier sentiment qui nous étreint tous, c'est la compassion absolue pour ces victimes innocentes qui viennent d'être décrites avec si bien par votre reporter. C'est la première chose.
Effectivement, Bernard-Henri Lévy, Vladimir Poutine n'est pas encore sorti du silence. Il aurait pu présenter...
Non, mais je veux dire par là que les communiqués officiels, pointant vers l'Ukraine, la voiture blanche...
Oui, il aurait pu commencer par
son
émotion et ses...
Pour l'instant, on voit bien en effet que le pouvoir russe, où rien n'est laissé au hasard, commence de distiller des informations et faisant état d'un lien avec l'Ukraine, ce qui est absurde, injurieux et injurieux pour les victimes elles-mêmes, qui ont envie de deuil, je suppose, les familles des victimes, à cette heure-ci.
Nicolas Burnand, je reviens vers vous. Les Américains avaient, semble-t-il, prévenu d'un attentat récemment.
Oui, à 2 reprises au moins, Washington dit avoir averti Moscou de l'imminence d'une attaque. Le 7 mars d'abord, les Américains ont dit qu'ils disposaient de renseignements indiquant que de grands rassemblements comme des concerts pouvaient être visés. Une mise en garde réitérée quelques jours plus tard. On ne connaît pas la nature des informations partagées avec les Russes, mais cet échange de renseignements correspond à la doctrine américaine de devoir d'alerte de l'administration Biden. Elle consiste à prévenir, quel que soit le pays, des menaces d'attentats imminents.
Et vous savez quelle a été la réponse de Poutine ? Quelle a été la réponse des Russes à cet avertissement américain ? Que c'était du chantage. C'est ça qu'a répondu Poutine, il y a 3 jours, il y a 4 jours, que c'était un chantage américain. Autrement dit, les Américains sont en train...
sont en train de nous faire
peur. Les théories de la conspiration ont commencé dès ce moment-là. Les Américains sont en train de nous prévenir d'un attentat qu'ils sont en train de fomenter. C'est ça qui a été la réponse de ce pouvoir paranoïaque qui est le pouvoir du Kremlin.
Nicolas Burnand, vous étiez vous-même, on le disait, il y a quelques jours à Moscou pour l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous avez pu constater en matière de sécurité sur place ?
Eh bien que les lieux de pouvoir, la Douma, le Kremlin, les bureaux de vote étaient particulièrement protégés, surveillés par les forces de l'ordre. Les journalistes contrôlés, les opposants, les protestataires arrêtés. Le pouvoir avait désigné l'étranger, en l'occurrence l'Occident, comme la principale menace pesant sur cette élection. En revanche, j'ai constaté que l'on pouvait facilement entrer dans les lieux de loisirs, les centres commerciaux, les salles de concert, les théâtres. Il y avait parfois des détecteurs de métaux, mais les agents n'étaient pas armés. Les contrôles pas très poussés, comme si l'éventualité, le risque d'un attentat d'ampleur commis sur le territoire russe n'existait pas.
Merci Nicolas Burnand pour ce témoignage. Nous sommes en direct avec Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de la Russie et de l'Ukraine, chercheur associé chez Open Diplomatie. Bonjour.
Bonjour.
Alors l'attaque a été revendiquée, on le disait, par l'État islamique. Est-ce que c'est crédible selon vous ?
Oui, c'est vraiment crédible. Déjà parce que la revendication a été faite sur le canal de communication officiel, donc entre guillemets l'agence de presse Amak, et sur le canal officiel Telegram de cette agence. Et ça rentre dans un contexte plus global de déclarations qui allaient croissantes de l'État islamique, donc branche Khorasan, c'est-à-dire Afghanistan, envers la Russie. Il faut savoir que notamment l'État islamique effectivement est opposé, et ces différentes branches sont opposées à la Russie, que ce soit dans le Sahel, que ce soit en Syrie, et aussi que l'Émirat du Caucase, donc en gros les terroristes islamistes tchétchènes avaient fait allégeance à l'État islamique dès 2015.
Les États-Unis, on vient de le dire, avaient averti les Russes, mais visiblement, Moscou n'en a pas tenu compte.
Non, effectivement, et je pense que c'est d'ailleurs probablement c'est aussi ça qui explique l'ampleur de cet attentat, c'est que l'État islamique a effectivement profité probablement un peu par opportunisme du fait que l'ensemble de l'appareil d'État en Russie est orienté vers la guerre en Ukraine, vers notamment la chasse, on va dire entre guillemets aux dissidents, donc c'est-à-dire à toute forme de protestation contre le régime ou de soutien éventuel à l'Ukraine. Donc effectivement, le FSB était probablement beaucoup plus inquiet occupé par ça que par la recherche de terroristes, alors que pourtant la menace se précisait. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a eu déjà une première opération antiterroriste en Ingouchie, donc qui est dans le sud de la Russie, où plusieurs terroristes ont été tués. Il avait été fait question, lorsque ces personnes ont été abattues, d'un potentiel attentat contre une synagogue à Moscou. Donc, si vous voulez, au-delà de cette annonce des Américains, il y avait quand même le fait que sur le territoire russe en lui-même, plusieurs opérations montraient qu'effectivement la menace était de plus en plus présente.
Vous parliez de l'Ukraine. On a bien compris que Moscou voulait faire le lien entre les terroristes d'hier soir et l'Ukraine.
Oui, il est assez clair que... Alors, il y a eu un moment de sidération où effectivement la propagande savait plus trop quoi dire. Mais effectivement, il semblerait, et l'arrestation des personnes sur la route, donc dans l'oblast de Bryansk, sur la route en gros entre Moscou et l'Ukraine, va effectivement alimenter ce narratif anti-ukrainien. Il faut savoir qu'avant même cette attaque, les Ukrainiens sont dépeints dans la propagande russe comme étant des terroristes et des nazis. Et donc effectivement, il est probable, malheureusement, est probable et prévisible, pour notamment en partie expliquer l'invraisemblable échec des services de sécurité russes, la responsabilité soit rejetée d'une façon ou d'une autre sur l'Ukraine. J'ajouterais que quand bien même, en fait, donc ce qui a été dit très précisément pour le FSB, c'est que ces personnes, donc ces terroristes avaient des contacts en Ukraine, quand bien même ce serait une réalité, ça ne veut absolument pas dire qu'il y a un lien entre ces attentats en Russie et le gouvernement ukrainien.
Merci Ulrich Bouna d'avoir été en direct avec nous ce midi. J'ajoute que dès hier soir, la diplomatie russe a appelé, je cite, la communauté mondiale tout entière à condamner ce crime odieux. L'ONU a fermement condamné. Les États-Unis ont assuré être aux côtés des victimes, tout en écartant l'implication ukrainienne. Emmanuel Macron a lui aussi condamné et exprimé sa solidarité avec tout le peuple russe. Une réaction à cela, Bernard-Henri Lévy ?
C'est bien sûr solidarité avec les familles des victimes, avec les endeuillés, avec les blessés, avec les gens traumatisés à vie. Un attentat de ce genre, on l'a vécu, nous, au Bataclan, c'est quelque chose d'ineffaçable, c'est un traumatisme absolu. Et bien sûr qu'on ne peut pas ne pas être saisi d'effroi et de compassion inconditionnelle pour les victimes et leurs familles.
On va continuer à en reparler évidemment au cours de ce journal inattendu. En tout cas, voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur cette attaque au plein cœur de Moscou, dont le bilan s'est alourdi à 115 morts. Dans un instant, nous irons à Londres, au Royaume-Uni. Un Royaume-Uni sous le choc après l'annonce du cancer de Kate Middleton. À tout de suite.
Le journal inattendu.
Bernard-Henri Lévy, Nathalie Renoux.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Bernard-Henri Lévy et Nathalie Renoux.
Depuis plusieurs mois, le mystère planait sur l'état de santé de Kate Middleton, incertitude levée hier par la princesse elle-même, qui a annoncé dans une vidéo très sobre souffrir d'un cancer. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Londres, mais il se trouve que vous êtes aujourd'hui à Paris. Merci d'être avec nous. La princesse Kate a fait sobre, et ça n'est pas n'importe qui. La princesse Kate, c'est la personnalité de la monarchie préférée des Britanniques.
C'est celle qui rajeunit la monarchie, c'est celle qui lui donne du peps, c'est celle qui lui donne du glamour. Elle a grandi en dehors de la famille royale et pourtant elle est complètement intégrée et elle permet aux Britanniques, ceux qui peut-être seraient un peu hostiles à tout ce qui est noblesse et privilèges, de pouvoir quand même aimer la famille royale. Et elle a un style particulier qu'elle a su imposer et qui la rend auprès des Britanniques spécialement sympathique, ce côté vraiment très, très droite mais en même temps très chaleureuse.
Alors justement, nous sommes avec notre correspondant Arthur Pereira qui est devant les grilles de Buckingham Palace à Londres. Bonjour Arthur.
Bonjour.
C'est le choc ce matin au Royaume-Uni.
Oui, certains se baladent avec un journal sous le bras, en une, le visage creusé de Kate. Pour son jogging habituel, Jake a modifié son itinéraire pour passer sous les fenêtres du Palais Royal. C'est face à ce bâtiment en pierre qu'Anglais et touristes sont amassés le long des grilles.
Bit of shock.
C'est un choc. Je crois que tout le monde aime Kate. C'est une vidéo qui m'a fait du mal. J'espère qu'elle va tout de même bien. C'est une personne qui représente la paix et qui donne beaucoup avec les valeurs du Commonwealth. Ça me fait vraiment de la peine. Je prie pour elle.
Et ce n'est pas seulement le peuple britannique qui est touché par cette annonce. Non, mais tout le Commonwealth, à l'image de Nicole, une Canadienne.
C'est vraiment triste de voir les commentaires et ce qui se dit sur l'état de santé de Kate par les gens et dans les médias. Je crois que toute personne qui a un cancer ne doit subir les critiques. Il faut préserver son intimité.
Et c'est ce qu'a demandé la princesse de Galles dans sa vidéo. Kate est actuellement entourée de son mari, le prince William, et de leurs trois enfants dans leur résidence à Windsor, en périphérie de Londres.
Merci Arthur Pereira à Londres. Merci Marie Billon d'être passée nous voir. Un mot pour Kate Middleton et cette annonce d'un cancer qui remue tout un pays.
Mais j'ai de la peine aussi. Vous savez, moi c'est une de mes nombreuses parts de naïveté. Quand les Anglais ont de la peine, j'ai de la peine. J'aime l'Angleterre, je fais partie des Français qui savent qu'ils ne seraient pas nés sans l'héroïsme des aviateurs anglais. Et c'est vrai que quand l'Angleterre est en deuil, une part de moi est en deuil aussi. Quand la reine Elisabeth est morte, quand on a appris le cancer du roi Charles. Et hier soir, ça m'a fait un choc.
Du football pour finir ce journal et un match amical France-Allemagne ce soir à Lyon. Ce sera sans Antoine Griezmann et c'est à noter puisque l'attaquant français est forfait pour la première fois depuis 2017. Il a enchaîné 84 matchs d'affilée avec les Bleus, vertigineux, légendaire, a même dit Kylian Mbappé. Nicolas Georgerot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Lyon pour cette rencontre que vous allez nous faire vivre sur RTL. France-Allemagne, est-ce que c'est vraiment un match si amical que ça ce soir ?
Ah, c'est une affiche qui convoque beaucoup de souvenirs, qui a toujours des enjeux de sélections qui se connaissent très bien, mais depuis de nombreux mois, la dynamique n'est pas la même. Des Bleus solides sur leurs appuis quand les Allemands ont les jambes qui flageolent un peu. Didier Deschamps fête son 150e match à la tête de l'équipe de France ce soir. Julian Nagelsmann, son homologue allemand, son 5e seulement. L'Allemagne, en crise en 2023, a changé son sélectionneur dans la dernière ligne droite avant l'Euro qu'elle organise dans 3 mois. Et si la Mannschaft tâtonne, Deschamps répond vigilance.
En face, sincèrement, il y a qualité de joueurs individuellement. De toute façon, ils sont dans les mêmes clubs que les joueurs français. Donc, il y a autant de qualité sur cette équipe d'Allemagne qu'il y en a aujourd'hui en équipe de France.
Ces rencontres ne sont jamais anodines et c'est le dernier rassemblement de ces sélections avant les listes des joueurs pour l'Euro à la mi-mai. Dernier examen de part et d'autre. 6 novices allemands ont été convoqués et le staff des Bleus attend lui aussi des réponses sur certains postes comme par exemple l'avant-centre de l'Inter, Marcus Thuram, en attaque.
Merci Nicolas Georgerot en direct de Lyon pour ce France-Allemagne ce soir en amical. Dans un instant, nous allons parler de votre actualité, Bernard-Henri Lévy. La sortie d'un livre, Solitude d'Israël, réflexion sur les attaques du 7 octobre, sur leurs répercussions sur le peuple israélien et plus généralement au Proche-Orient et dans le monde. A tout de suite, c'est votre journal inattendu.
Le journal inattendu.
Bernard-Henri Lévy, Nathalie Renaud.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Bernard-Henri Lévy et Nathalie Renoux.
Bernard-Henri Lévy, vous êtes là pour nous parler de votre livre « Solitude d'Israël » qui vient de sortir. Un essai sur Israël après les attaques. Les attaques, c'était le 7 octobre 2023. Des hommes du Hamas s'introduisent en Israël pour y commettre un massacre.
Et l'information de la nuit, des centaines de roquettes tirées sur Israël.
Tirées de la bande de Gaza, selon l'armée israélienne, des combattants palestiniens se sont infiltrés en territoire israélien. Le Hamas dit avoir lancé l'opération déluge d'Al-Aqsa.
La musique s'est arrêtée. Les roquettes continuaient à tomber. À ce moment-là, je n'avais pas encore vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de corps.
Je n'ai pas de mots, je suis horrifiée, je n'ai pas de mots.
Voilà, c'est la tête de mon fils. Je n'ai plus de nouvelles depuis samedi, vous l'avez vu ?
Voilà, ces gens qui témoignent de ces attaques subites, un cataclysme, point de départ de votre livre Solitude d'Israël. Vous dites que vous êtes arrivé au lendemain de ces attaques, qu'est-ce que vous avez vu alors ?
Le lendemain, et j'ai vu l'horreur, et j'ai entendu l'horreur. J'ai entendu probablement quelques-uns des premiers témoignages de ceux qui avaient survécu et de ceux qui avaient vu les familles entières brûlées, les femmes violées, les femmes assassinées pendant qu'on les violait, les femmes au sein tranché au cutter pendant que un autre homme les violait. J'ai entendu des choses abominables. J'ai vu une petite organisation israélienne qui s'appelle Zaka qui cherchait les membres dépecés des corps afin de les reconstituer et de leur donner une sépulture, et des membres qui avaient été dispersés et qui étaient presque impossibles à reconstituer. J'ai vu tout ça, j'ai vu une sorte de paysage de fin du monde dans des kibboutz qu'en plus je connaissais bien, où j'étais allé, le kibboutz de Kfar Aza, où je me suis rendu dès que ça a été possible, le 10 ou le 11 ou le 12, je ne sais plus. C'est un kibboutz où j'étais allé en 1967, donc il y a bien longtemps. Un kibboutz pacifiste qui avait pour doctrine la coexistence, l'ouverture à l'autre, oui, deux États.
On rappelle à nos auditeurs que les kibboutz, ce sont des communautés qui sont en général assez proches du peuple palestinien, finalement.
Oui, bien sûr, et celle-là en particulier, c'est des communautés villageoises, souvent à l'origine d'agriculteurs, maintenant un petit peu moins, mais qui ont pour doctrine le partage de la terre. Vous voyez, c'est pas les kibboutz, c'est pas les extrémistes messianiques.
Cette attaque, elle a sidéré le peuple israélien et le monde d'ailleurs, je crois, parce qu'elle était inenvisageable. Et d'ailleurs, elle n'a pas été anticipée par Israël.
Voilà. Et c'était d'ailleurs, on dit le Hamas groupe terroriste, c'est vrai, c'est d'abord un groupe terroriste. Mais c'était plus que du terrorisme, c'était une guerre. Vous savez, quand vous avez des centaines d'hommes, peut-être 1000, peut-être un peu plus, qui envahissent votre pays et qui font ce carnage pendant des jours entiers, le Hamas, c'est une armée. c'est une armée de guerre. Et cette invasion d'Israël par cette armée était quelque chose d'inconcevable.
Il y a eu pourtant des signes avant-coureurs.
Oui, mais le propre
que les services de renseignement israéliens n'ont pas.
Voilà, mais le propre des événements, des vrais événements avec un E majuscule, donc les événements qui ne ressemblent à rien, les événements qui ne répètent pas un truc qu'on a déjà vu. Le propre de ces événements-là, c'est que on ne peut pas les imaginer, on ne peut pas les calculer. C'est comme, vous savez, en économie, dans vos chroniques d'économie, on parle souvent on dit un signe noir, signe CY, un événement qui ne s'est jamais produit, qui ne peut pas être calculé et qui arrive comme la foudre. Qui arrive comme la foudre. Cet événement-là, c'était ça. À l'opposé des attentats, de l'attentat de Moscou de cette nuit, qui ressemble, lui, hélas, aux attentats de 1999. Celui-là, ça ne s'était jamais passé. Cette prise d'otage, ces jeunes filles, ces jeunes gens emmenés comme ça, il y a un exemple dans le passé. Il y a un exemple de prise d'otage de la même sorte qu'on a tous oublié, enfin beaucoup en tout cas. C'est des jeunes lycéennes du Nigeria enlevées par le groupe islamiste Boko Haram. Moi, je connais bien, j'étais allé au Nigeria faire un reportage pour Paris Match sur Boko Haram, mais c'est
là,
très très rare.
Le même type de sidération.
Même type de voilà un troupeau de femmes et d'hommes emportés comme des animaux, emmenés dans des camionnettes, profanés, violés, frappés avec des gens autour d'elles et autour d'eux qui les insultent. Honnêtement, c'est pas fréquent.
Solitude d'Israël, on va continuer à en parler juste après les titres de 13h dans votre journal inattendu, Bernard-Henri Lévy.
Le journal inattendu,
Bernard-Henri Lévy, Nathalie Renaud. RTL.
Il est 13h.
Le journal inattendu de Bernard-Henri Lévy.
13h, les titres de l'actualité,
Nathalie Renaud.
115 morts, une centaine de blessés, c'est le dernier bilan provisoire de l'attaque qui a eu lieu hier soir à Moscou. Des terroristes ont ouvert le feu à l'intérieur d'une salle de spectacle, le Crocus City Hall, en banlieue nord-ouest de la capitale russe. Une fusillade qui a duré de longues minutes. Les terroristes ont ensuite mis le feu au bâtiment dont le toit a fini par s'effondrer. Attaque revendiquée hier soir par l'État islamique. Ce matin, les autorités russes ont annoncé avoir arrêté 11 personnes, dont les 4 terroristes. Présumés qui avaient pris la fuite à bord d'une voiture blanche. Ils ont été arrêtés à proximité de la frontière ukrainienne. Nicolas Burnand, bonjour.
Bonjour.
On sent que Moscou veut absolument faire un lien entre ces terroristes et l'Ukraine.
Oui, selon le FSB, le service fédéral de sécurité russe, ces personnes avaient des contacts en Ukraine et comptaient fuir dans le pays en guerre. Mais à cette heure, aucune preuve n'a été apportée par Moscou. Kiev dément à nouveau tout lien ou toute implication dans cet attentat, parlant de propos absurde. La présidence ukrainienne accuse en revanche le Kremlin et ses services spéciaux d'orchestrer cette attaque pour justifier une escalade dans le conflit. Ce que l'on sait, vous l'avez dit, c'est que les 4 auteurs présumés de cet attentat ont été arrêtés par la police dans la région de Bryansk, selon les autorités russes. Ils se dirigeaient à bord d'une voiture vers la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Un pistolet, un chargeur de fusil d'assaut et des passeports du Tadjikistan, une ancienne république de l'Union soviétique à majorité musulmane, aurait été retrouvé à l'intérieur du véhicule.
Merci Nicolas pour ces dernières informations. L'autre grand titre de l'actualité, c'est Kate Middleton qui a annoncé elle-même hier soir qu'elle était atteinte d'un cancer. Le Royaume-Uni est sous le choc. Joe Biden, le président américain, dit prier pour elle. La princesse ne précise pas de quel cancer elle souffre. Elle dit juste qu'elle suit une chimiothérapie préventive. Enfin du football, match amical France-Allemagne ce soir à Lyon. Ce sera sans Antoine Griezmann qui est forfait pour la première fois depuis 7 ans. Coup d'envoi de ce France-Allemagne amical à 21h et c'est à suivre dans RTL Foot à partir de 20h30. Et puis la météo, un temps plus frais mais encore assez lumineux cet après-midi avec quelques grains orageux sur la moitié nord. Au sud, les éclaircies seront plus fréquentes, notamment de la vallée du Rhône à la Méditerranée, au prix d'un fort mistral. Les températures, comprises entre 7 et 22 degrés des Ardennes au Var, il fera 10 à Lille, 11 à Caen et à Paris, 14 à Lyon, 15 à Toulouse et jusqu'à 20 degrés à Marseille. Nous sommes avec vous, Bernard-Henri Lévy, pour votre journal inattendu. Et nous parlions, juste avant les titres de 13h, de votre dernier livre, Solitude d'Israël, qui est un essai sur Israël après les attaques du 7 octobre. Je vous cite dans votre livre, page 84, « Les Israéliens n'en avaient pas encore fini avec le jour d'aujourd'hui qu'on leur demandait déjà de passer à celui d'après. Est-ce que vous estimez que la communauté internationale n'a pas suffisamment pris en compte le traumatisme du peuple israélien ?»
Absolument. Je le trouve et je le détaille. C'est même assez glaçant. Vous savez, quand on met bout à bout, comme je le fais dans ce chapitre du livre, les réactions des uns et des autres, notamment les grandes organisations internationales, le Guterres, le patron des Nations Unies, l'organisation de l'ONU en principe consacrée aux femmes, ONU Femmes, qui a mis des semaines à s'émouvoir de ces viols en masse qui ont eu lieu, et qui ensuite, lorsqu'elle a fini par diligenter une enquête, la fameuse ONU Femmes a trouvé le moyen de mettre des peut-être, des oui mais, et même une des membres de la commission d'enquête d'ONU Femmes, disant que c'était peut-être au fond les Israéliens qui avaient eux-mêmes violé
l'ONU a condamné les attaques du 7 octobre, Bernard-Henri
oui.
Lévy.
L'ONU a tardé, heureusement que l'ONU a condamné, mais d'abord a tardé, a condamné, et a condamné avec cette horrible rhétorique qui est la rhétorique du « oui mais ». Oui, nous condamnons, mais il y a un contexte. Oui, c'est horrible, mais Israël, depuis très longtemps, infligeait lui-même aux Palestiniens des souffrances innombrables.
Vous pensez que Israël n'a pas été soutenu à sa juste valeur, comme par exemple l'a été la France au moment des attentats du Bataclan ?
Écoutez, la preuve que non, c'est que, regardez aujourd'hui, Israël est seul à mener cette riposte. Quand la France est allée chercher à Mossoul les responsables du Bataclan, il y avait du monde autour de la France, il y avait une coalition internationale, il y avait les Américains, il y avait les Émiratis, il y avait des Irakiens, il y avait une coalition importante. Quand l'Amérique est allée chercher les responsables du World Trade Center du 11 septembre en Afghanistan, pareil, énorme coalition. Aujourd'hui, c'est le même genre d'histoire. Le Hamas, c'est comme État islamique, Daesh, et c'est comme Al-Qaïda. Il n'y a personne autour d'Israël. Le président Macron avait lancé au début l'idée, que je trouvais belle et juste, de reconstituer, c'était le bon réflexe, ça, la même coalition internationale autour d'Israël. Mais personne n'a voulu. Israël mène ça tout seul.
Mais
c'est pour ça
qu'aujourd'hui,
il s'appelle Solitude d'Israël.
Effectivement, oui. C'est un titre qui a un sens. Mais aujourd'hui, est-ce que finalement, l'opinion publique ne confond pas le Hamas et le peuple palestinien, notamment dans cette enclave de Gaza, qui subit le feu israélien depuis plusieurs mois. Est-ce que ce n'est pas ça aussi qui fait cet amalgame, qui crée cet amalgame ?
Non, parce que les réactions dont je vous parle se sont produites avant que l'armée israélienne n'engage sa riposte. C'est tout de suite, il y a eu des manifestations, des tentatives de manifestations ou des manifestations sauvages dans les rues de Paris, tout de suite. Il y a eu des manifestations monstres dans les rues de Londres, tout de suite, où on disait mort à Israël et parfois mort aux Juifs. On n'a pas attendu qu'il y ait des victimes civiles à Gaza pour prendre parti contre Israël. Ça s'est passé immédiatement. Vous savez, il y a eu presque, c'était à se demander parfois, si ce n'était pas des soulèvements de joie que l'on voyait dans certaines villes du monde, et hélas, parfois d'Europe. Des soulèvements de joie à l'idée que les Israéliens venaient de subir un revers, même pas historique, mais spirituel, métaphysique, considérable. Non, ça n'a... les deux choses n'ont rien à voir. J'ajoute que bien sûr que les victimes civiles à Gaza, c'est atroce. Et on ne peut pas être un père ou être une mère ou avoir songé à l'être sans être horrifié chaque fois qu'on voit un corps sortir des décombres.
À l'instant, je vous interromps parce qu'à l'instant, le ministère de la Santé du Hamas, qui est celui qui donne un bilan, annonce un nouveau bilan de 32 140
oui,
morts.
Oui, mais j'explique dans le livre pourquoi ces chiffres sont nécessairement faux. Je l'explique. Ils sont faux parce que le Hamas ne distingue pas les combattants et les civils. Ils sont faux parce que quand il parle des enfants, il met dans la catégorie des enfants des adolescents de 19 ou 20 ans. Et ils sont faux, les chiffres du Hamas, parce que dans ces chiffres-là, si tant est qu'il soit, que le décompte soit exact, il y a aussi des gens qui sont morts sous les roquettes du Hamas, qui sont envoyés vers Israël et qui, une fois sur cinq, sont mal tirés et retombent sur Gaza. Mais attendez, il y a mille raisons, et il y en a d'autres, qui font que ces chiffres sont nécessairement faux. Alors, il n'y en aurait-il que la moitié, que le tiers, encore une fois,
j'allais vous le dire.
Ce serait terrible,
mais bien
entendu.
De toute façon, il y a un bilan certain dans l'enclave palestinienne. Mais aujourd'hui, l'ONU dit que le peuple palestinien est au bord de la famine. Comment on peut débloquer cette situation, parce qu'elle ne va pas pouvoir durer éternellement ?
Attendez, comment on peut la débloquer ? Il y a une façon extrêmement simple. C'est que la Turquie, le Qatar fassent la pression qu'il faut sur le Hamas pour qu'il reconnaisse sa défaite et qu'il rende les armes, ou qu'il s'exfiltre, ou qu'il parte au diable. Le jour où le Hamas reconnaît sa défaite, c'est fini. Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus un mort civil palestinien. Il n'y a plus un mort israélien. C'est tout. Rendre les otages, ceux qui ne sont pas morts, 130 otages israéliens, hélas, probablement moins, rendre les otages et arrêter la guerre et capituler. C'est fini dans ce cas-là. Ça, première chose. Deuxième chose, vous savez, vous parlez de la famine. Qui parle aujourd'hui ? Il y a une vraie famine en ce moment qui menace, d'une autre ampleur, c'est au Soudan. Mm-hmm. Au Soudan, il y a une famine. Hélas, les mêmes, vous en parlez dans vos journaux, vous en parlez dans les médias, mais je vois pas de manifestation dans les rues de Paris pour s'indigner de cette junte militaire au pouvoir à Khartoum qui crée la famine dans son propre pays. Bref, il y a là une injustice faite à Israël, un deux poids et deux mesures au détriment d'Israël, qui personnellement me révolte et qui fait que j'ai écrit ce livre et qui essaie de rendre justice.
Et vous savez que ce discours-là, certains ne l'entendront jamais, évidemment.
J'en sais rien, peut-être que si, je crois qu'il y a des... Tout de même, vous savez, quand vous dites à des humanistes ou à des gens ou à des citoyens responsables, quand vous leur dites, mais attendez, vous trouvez pas bizarre que Bachar al-Assad ait tué 400 000 civils et qu'il n'y ait jamais eu une manifestation à Paris ? Je crois qu'ils comprennent. Vous ne trouvez pas bizarre qu'il y ait eu un vrai génocide au Darfour, 300 000 morts, et qu'il n'y ait jamais eu non plus de grande mobilisation ? Et là, il y a un petit pays, Israël, tout petit pays, qui a été attaqué comme rarement, qui se défend, qui le fait en tentant d'éviter. C'est horrible, mais c'est comme ça. Au maximum, les victimes civiles. Et là, il y a des foules hystériques qui crient mort aux Juifs. Les gens comprennent tout de même, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est pas pour me faire plaisir, j'ai écrit ce livre pour essayer de convaincre.
Solitude d'Israël, chez Grasset. On reste avec vous, Bernard-Henri Lévy, et avec l'invité que vous avez souhaité avoir en direct dans ce journal inattendu. À tout de suite.
Le journal inattendu. Bernard-Henri Lévy, Nathalie Renouf. Le journal inattendu sur RTL.
Avec Bernard-Henri Lévy et Nathalie Renouf. Bernard-Henri Lévy, vous avez beaucoup voyagé et vous avez aussi beaucoup documenté vos déplacements. Et d'ailleurs, ce midi, vous avez souhaité inviter un homme qui vous a souvent accompagné comme photographe. Il s'appelle Alexis Duclos et il est en direct avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour Bernard.
Bonjour Alexis.
Alors, Alexis Duclos, si vous êtes devenu le photographe de Bernard-Henri Lévy, c'est aussi parce que vous vous connaissez depuis longtemps, depuis l'enfance.
Oui, effectivement, Bernard, c'est une amitié entre lui et moi qui remonte à l'enfance. Sa mère et la mienne étaient très bonnes amies, donc voilà, la vie durant fait qu'il est devenu écrivain et moi reporter de presse, et j'étais à l'agence Gamma, voilà.
Et donc vous l'avez accompagné, mais où ? Est-ce que vous pouvez nous dire les zones où vous êtes allés ensemble ?
Bah écoutez, je l'ai accompagné dans plusieurs pays, mais en tous les cas, le premier, je crois, l'un des plus importants, c'est la Bosnie. En 1993, Bernard m'appelle et il me demande si j'accepte de documenter son film, d'être le photographe du film Bosna, tourné à Sarajevo. Évidemment, j'ai accepté. Pour l'agence Gamma, c'était bien aussi. Et pour moi, eh bien, j'ai commencé à vivre une belle aventure humaine, journalistique, qui s'est effectivement répétée fait dans différents pays, le Soudan, l'Égypte, Israël, Kurdistan, etc.
Absolument, mais on a des souvenirs bouleversants, Alexis et moi, parce que c'est vrai que la Bosnie où les musulmans bosniaques étaient assiégés par des armées serbes, c'était pas évident de tourner un film dans ces conditions-là. Et Alexis a mis au service du film tout son talent de grand professionnel de la photo, de reporter de guerre. C'était magnifique. Et le Darfour, je vous en parlais tout à l'heure. On a fait une chose. Je sais pas si tu seras d'accord, Alexis, un petit exploit. Qui était tout de même d'entrer clandestinement à l'intérieur du Darfour génocidé et d'aller très très loin. On était allé jusqu'à Beir Medza. Ça ne dira pas grand-chose à vos auditeurs, mais ils iront peut-être sur Google et ils verront. Je crois qu'à l'époque, on était allé vraiment très en profondeur dans ce pays où vraiment la misère humaine se montrait dans ça. C'était le dernier cercle de l'enfer. Et on était côte à côte, Alexis et moi.
Et Alexis,
absolument.
Quand j'ai préparé cette émission, que je vous ai appelé, vous m'avez dit que c'était un avantage d'être aux côtés de Bernard-Henri Lévy quand on arrivait sur ces terrains difficiles. Ça veut dire quoi, un avantage?
Ouais. Écoutez, vous savez, je crois que l'une des forces de Bernard-Henri Lévy et probablement l'un de ses talents, c'est d'avoir de l'influence. Il a ouvert des portes, il a fait bouger des lignes. Donc on arrivait sur des lieux, on pouvait photographier des situations exclusives, rencontrer des personnages et puis finalement raconter des histoires que peut-être d'autres journalistes ne pouvaient pas faire ou très difficilement. Donc oui, ça c'était excitant.
Alors vous étiez là pour photographier des pays en guerre, mais aussi pour photographier un homme, en l'occurrence Bernard-Henri Lévy, en action dans ces pays en guerre. Est-ce que vos images resteront, ces images-là en tout cas, est-ce qu'elles ont d'ailleurs contribué à écrire aussi le personnage Bernard-Henri Lévy?
Si mes images resteront, oui, je l'espère, mais pas seulement. Il y a ses écrits, il y a peut-être mes images, j'espère aussi, et puis il y a ses films. Voilà.
Est-ce que Bernard-Henri Lévy, vous avez toujours souhaité non seulement agir, mais mettre en image, médiatiser cette action?
Vous savez, on n'irait pas s'embêter, comme on l'a fait avec Alexis, au Kurdistan, dans des conditions compliquées, en pleine guerre au moment de Daesh, si on n'avait pas l'idée quand même de médiatiser la chose, de faire savoir, de montrer ce dont on avait été les témoins à un très grand public. Et ça suppose de l'écriture et ça suppose de la photo. J'ai fait ça beaucoup avec Alexis Duclos, j'ai fait ça beaucoup avec un autre de mes amis plus récent,
Marc Roussel,
voilà. Bien sûr, quand on prend...
Non mais là, ce que je veux dire, c'est que dans ces cas-là, vous vous mettez vous aussi en scène en tant que tel, en tant que reporter.
D'abord, c'est Alexis qui me met en scène, c'est lui le metteur en scène, là, faut pas renverser. Et je pense qu'il a raison parce que je pense qu'il a plutôt raison parce que souvent, ce sont des situations. On n'est pas juste les témoins qui arrivons et qui photographions une situation qui est déjà là. On crée la situation. Il a raison, Alexis. C'est vrai que quand je me trouve sur le Maïdan de Kiev en 2014, février 2014, la grande place centrale de Kiev, où il y a une révolution démocratique magnifique, dont Poutine dit aujourd'hui qu'elle est manipulée par la CIA. Peu importe, vieilles habitudes d'espions, nous, c'est pas notre cas. Je suis là et je prends la parole devant les 500 000 personnes présentes. La vidéo est faite par Alexis notamment.
Et donc,
elle est sur YouTube.
Il est normal qu'Alexis immortalise ce moment.
C'est une situation bizarroïde. Et là-dessus, j'appelle le président de la République et je le convainc de recevoir les candidats, les insurgés du Maïdan qui vont être les candidats à la présidentielle. Il serait pas un bon photographe s'il ne photographiait pas et s'il ne filmait pas cela. C'est des situations que nous avons un tout petit peu contribué à susciter. Voilà.
En tout cas, merci Alexis Duclos.
Mais je vous en prie.
Merci d'avoir été avec nous en direct dans ce journal inattendu. Un journal inattendu qui se poursuit et on conclura en parlant d'Ukraine et de la Russie d'aujourd'hui, mais aussi d'Israël. À tout de suite avec Bernard-Henri Lévy.
Le journal inattendu.
Bernard-Henri Lévy, Nathalie Renaud.
Le journal inattendu.
Bernard-Henri Lévy, Nathalie Renoux.
L'Ukraine, en ce début de guerre, retient son souffle. Elle ne sait si elle va vivre ou mourir. Il n'y a pas deux options, il y en a une. Que Poutine recule. Capitule. Leur guerre est notre guerre. Leur défaite serait notre défaite. L'Ukraine ne peut pas perdre, mais il faut l'aider à gagner.
Ça, c'est un extrait de Pourquoi l'Ukraine, votre premier documentaire sur l'Ukraine réalisé avec Marc Roussel. On est dans un moment un peu particulier puisqu'il y a cet attentat à Moscou qui a fait 115 morts, des assaillants arrêtés dont Moscou dit qu'ils ont des liens avec l'Ukraine. On voit bien qu'il se passe des choses en ce moment de ce côté-là. Dans l'extrait, vous dites que leur défaite aux Ukrainiens serait notre défaite. Est-ce que vous pouvez expliciter cette phrase ?
Je pense qu'ils sont là, ils sont le rempart de... Je pense deux choses. Que le vrai ennemi de Poutine, il suffit de l'écouter, hein, il le dit, c'est pas l'Ukraine, c'est l'Europe. C'est à l'Europe qu'il en veut, c'est l'Europe dont il déteste les valeurs, c'est la manière de vivre des Européens qui lui fait horreur.
La démocratie totale et entière, peut-être.
La démocratie, l'égalité entre les hommes et les femmes, le mariage gay, enfin, mille choses qui caractérisent nos sociétés libérales et démocratiques, ça le rend fou. Il y a dans la propagande poutinienne, par ailleurs, une formule qui est peu commentée, le catholicisme. Il appelle ça l'hérésie latine. Par opposition à l'orthodoxie. Et là, il y a une vraie guerre dans l'esprit des Poutiniens de civilisation entre l'orthodoxie et l'hérésie latine. Bref, il y a ça. Et par rapport à cette bataille-là qu'il imagine dans sa tête, il y a un rempart, il y a une première ligne qui est l'Ukraine. L'Ukraine est la première ligne. C'est comme ça qu'il la conçoit, Poutine, et c'est comme ça que les Ukrainiens se vivent. Moi, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps en Ukraine. Ce que vous avez fait entendre, un son de mon tout premier film, tourné vraiment au lendemain du déclenchement de la guerre. Mais j'en ai fait d'autres. La phrase que j'ai le plus entendue dans les tranchées, dans les premières lignes, dans les zones de combat, chez les Ukrainiens, c'est « Ok, on défend notre patrie, mais on défend aussi la vôtre, on défend les valeurs de l'Europe. On est de vrais Européens. »
Emmanuel Macron, récemment, a évoqué l'idée d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, sous certaines conditions, bien entendu. Est-ce que vous pensez qu'il a raison de brandir cette menace-là ?
Il n'a pas évoqué l'idée. Il a dit qu'aucune hypothèse n'était exclue, y compris celle-là. Et je pense qu'il a eu totalement raison. Il s'est conduit comme un anti-Daladier ou un anti-Chamberlain, les gens qui ont signé en 1938 les accords de Munich, lesquels accords
qui sont restés passifs face à la montée en puissance du nazisme.
Ils ont surtout dit à l'époque à Hitler, tu peux y aller, voilà, tu peux aller plus loin, on ne bouge pas, on est fatigué, on ne croit plus vraiment à nos valeurs, on va t'en donner un morceau et peut-être que ça va te rassasier. Et puis évidemment, les vrais ogres ne sont jamais rassasiés. Donc Macron s'est conduit là comme un anti-Daladier, comme un anti-Munichois, et je pense qu'il a eu absolument raison.
La perspective éventuelle de l'élection de Donald Trump aux États-Unis, qui du coup se retirerait de cette guerre-là, ne soutiendrait plus l'Ukraine, est-ce que c'est une perspective qui vous fait peur ?
Bien sûr que ça me fait peur, et c'est la raison pour laquelle il faut aller vite, il faut armer l'Ukraine très vite, et pas comme on l'a fait depuis le début. Depuis deux ans, on a toujours un temps de retard dans notre soutien à l'Ukraine, et nous, pas moi, pas vous, pas RTL, hein, qui s'est pavoisé.
Les Occidentaux, vous voulez dire ?
Dès le début, oui, les gouvernements européens, y compris le gouvernement français. On a toujours donné aux Ukrainiens les armes dont ils nous avaient demandé trois mois plus tôt. Moi, j'ai visité des positions de combat où il y avait quatre jours de munitions.
Donc il faut aller plus vite.
Il faut aller plus vite, il faut une aide massive. Et si on donne une aide massive, alors je pense que l'Europe sera forte, l'Europe sera libre, l'Europe résistera à ceux qui veulent la démanteler, à commencer par Poutine, mais il n'est pas le seul. Il y a les islamistes aussi.
Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu nous parler de l'Ukraine, de la Russie en ce moment un peu particulier et de ce livre « Solitude d'Israël » qui vient de sortir aux éditions Grasset sur Israël après les attaques du 7 octobre. Dans un instant, cette entrée dans l'histoire avec Laurent Deutsch. Je vous souhaite à tous un très bon samedi et à la semaine prochaine pour un nouveau journal inattendu.
Le journal inattendu sur RTL.